Et nous allons partager la lecture de cet évangile de Luc, évangile qui nous redit cette histoire de naissance. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, les versets 1 à 20. En ces jours-là, parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre habitée. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David. Il voulait se faire recenser, inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et l'installa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle. Il y avait dans cette même région des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur survint devant eux, et la gloire du Seigneur se mit à briller tout autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et sur la terre, paix parmi les humains qu'il aime. » Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils s'y rendirent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui les entendirent s'étonnèrent de ce que disaient les bergers. Marie retenait toutes ces choses et y réfléchissait. Quant aux bergers, ils s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qu'il leur avait été dit. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 108, les strophes 1, 2, 3. asseoir. Et nous prions le Seigneur au moment de méditer les Écritures. Seigneur, offre-nous ton esprit. Permets que nous soyons ouverts à ta parole. Dispose nos cœurs à l'étude. Permets que nous soyons en recherche. Mets-nous en chemin vers la vérité de ta parole et apprends-nous à jamais ne nous croire arrivés. Toi, Seigneur, tu es celui qui nous accompagne sur les chemins de notre recherche. Dans les mots anciens de la Bible, fais que nous puissions trouver, étape par étape, le chemin de notre propre vie. Amen. Comme un petit agneau qui naît durant la nuit, Jésus est déposé dans la mangeoire des animaux. Quel berger prendra soin de ce petit agneau? En ce matin de Noël, nous fêtons la naissance de l'agneau de Dieu, celui qui n'aura de place ni pour naître, ni pour reposer en paix après sa mort, et qui pourtant trouvera dans le cœur des chrétiens la place de Messie. Le récit de Luc met en scène des bergers, quand Matthieu met en scène des mages venus d'Orient. Et c'est dans la forme d'un récit historique que l'évangile de Luc veut nous faire partager cet événement. Et pourtant, tout est paradoxal dans ce texte. De la chronique de l'Empire romain à la crèche de Bethléem, la question du règne de Dieu se déploie comme un signe jusque-là caché et que la naissance de Jésus vient révéler. Le lien entre l'Empire romain, la royauté en Israël et ces bergers qui passent les veilles de la nuit dans les montagnes avec leurs troupeaux se tisse comme l'étoffe du manteau étoilé de la nuit. Un nouveau-né emmailloté est couché dans une mangeoire. Déchiffrons ensemble ce signe annoncé au berger par l'ange du Seigneur. L'histoire se passe dans un temps que l'histoire officielle ne peut retenir. César Auguste décrète un grand recensement et Quirinus serait alors gouverneur de Syrie. Il semble que la naissance de Jésus ne puisse avoir lieu pendant le mandat de Quirinus, parce qu'alors Hérode le Grand était déjà mort, et il semble bien que Jésus soit né sous le règne de Hérode le Grand. Alors, erreur de copiste? Ce serait en tout cas, d'après Tertullien, Sentius Saturninus, qui était alors gouverneur de Syrie. Il y a donc une erreur quelque part. Erreur de recensement? En effet, il y en aurait eu deux. Et celui de Quirinus serait celui de l'année 6 après Jésus-Christ. À vrai dire, Ce qui importe ici, ce n'est pas l'exactitude des dates, mais plutôt pourquoi on nous raconte ceci et pourquoi cette précision. Ce qui importe ici, c'est la symbolique du recensement lancé par un empereur qui a laissé à la postérité l'image d'un artisan de la fameuse Pax Romana. En effet, César Auguste est l'empereur adopté par son oncle Jules César et nommé aussi le vénérable Octave. Il règne 45 ans et réussit à imposer la paix de telle sorte que de grands travaux soient possibles partout dans l'Empire et que les populations puissent se développer dans une certaine sécurité. Bien sûr, ce temps de respiration de l'Empire a son revers et ce sont les habitants des provinces de l'Empire qui en payent le prix. En lançant un recensement, les gouverneurs ont d'abord comme projet de savoir sur combien de têtes ils prélèvent l'impôt. Et d'impôts, les populations de la Palestine qui voient naître Jésus sont accablées. Ainsi, si la date de naissance de Jésus n'est pas avérée, malgré les calculs savants du moine Denis le Petit, qui détermina que Jésus avait dû naître 754 ans après la fondation de Rome, le contexte que nous propose Luc est bien un contexte politique où les points de vue s'opposent sur la définition de la prospérité d'un peuple. La paix d'Octave est une paix subie par les peuples qui sont sous son joug. Même si le roi Hérode, lui, est très satisfait de son règne et mène des grands travaux en l'honneur de l'empereur qui lui est favorable, les populations, elles, ne le vivent pas ainsi. Luc nous place d'emblée dans un questionnement sur la paix qui a toujours animé l'histoire d'Israël et sa théologie messianique. Car c'est sans doute la plus grande attente d'Israël à travers tous les prophètes, nous le lisons. Quel Messie pour quelle paix? Quel Sauveur pour quel salut? Jésus naît à Bethléem, le lieu emblématique de cette attente. En effet, c'est la ville du roi David, le roi représentant le premier roi aimé de Dieu. Bien-aimé, comme dit son nom même. David veut dire bien-aimé en hébreu. Jésus aurait pu naître à Nazareth, mais la Sainte Famille se rend au grand complet à Bethléem pour se faire recenser. La chose n'était absolument pas évidente, puisque la présence du chef de famille, Joseph, aurait suffi à effectuer cette formalité. Si le temps exprime ici le questionnement sur la paix, l'espace, lui, exprime une sorte d'utopie. La paix ne semble pas réalisable. Et même si la paix imposée par Octave est réelle dans les grands équilibres qu'elle maintient, les individus peinent à y trouver leur place. Et c'est l'image du non-lieu qui inspire l'évangéliste. Un lieu qui n'est pas celui des humains, mais celui des troupeaux. Le peuple d'Israël est comme un troupeau qui n'a plus de berger. Son roi est à la solde de l'empereur et les prêtres du temple que Hérode construit à grands frais sont obligés d'obéir eux aussi à cet empire qui respecte le judaïsme et accepte assez facilement qu'aucune effigie ne soit présentée dans Jérusalem, les effigies impériales bien sûr, mais considère quand même nécessaire que les prêtres adressent des prières à l'empereur, comme s'il était Dieu. Comment ce clergé pourrait-il conduire le peuple de Dieu? Comment pourrait-il être celui qui est loyal envers le Dieu unique, alors qu'il obéit à deux maîtres? Humain parlant prophète sur les bergers d'Israël. Voilà ce qu'il est écrit dans le prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel lance cet appel de Dieu. Parle en prophète et dis-leur aux bergers. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Quel malheur sur les bergers d'Israël qui se repaissent eux-mêmes. Les bergers ne devraient-ils pas faire paître le troupeau? Vous mangez la graisse, vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez sacrifié les bêtes grasses, vous ne faites pas paître le troupeau. Vous n'avez pas fait reprendre des forces aux bêtes qui étaient faibles, soignez celles qui étaient malades, pansez celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec force et rudesse. Elles se sont dispersées, faute de bergers. Elles sont devenues la proie de tous les animaux sauvages. Elles se sont dispersées sur toutes les collines élevées. Mon troupeau erre dans toutes les montagnes. Je vais moi-même prendre soin de mes bêtes et les passer en revue, comme un berger passe en revue son troupeau quand il est au milieu de ses bêtes éparpillées. Ainsi, je passerai en revue mon troupeau et j'arracherai mes bêtes de tous les lieux où elles ont été dispersées. Un jour de nuée et d'obscurité épaisse. L'évangile de Luc résonne de cette critique contre les chefs d'Israël, qu'ils soient religieux ou non, qui ne prennent pas soin du peuple. Et ce n'est donc pas un hasard si c'est à des bergers que l'annonce de l'ange du Seigneur est adressée. L'image des montagnes et des collines élevées, plongées dans l'obscurité épaisse de l'erreur, semble ici reprise, comme si Dieu revenait au lieu où son peuple égaré s'est perdu et attend un berger, un sauveur, un nouveau David, un berger qui ne s'impose pas par la force et la rudesse, mais qui fait attention au plus petit de ses frères. Un berger qui soit parmi les plus petits et qui soit choisi par Dieu et qui puisse recevoir l'onction du prophète Samuel comme David. Ici, Luc affirme contre toute réalité visible, comme Dieu l'avait dit à Samuel quand il cherchait le nouveau roi parmi les fils de Jessé. Il ne s'agit pas de ce que l'homme voit. L'homme voit ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur voit au cœur. C'est ainsi que David avait été choisi contre toute attente, lui le plus petit, le plus jeune, celui qui gardait les troupeaux, qui n'était même pas là le jour où Samuel est venu voir le Jessé, son père. C'est au cœur des bergers que l'ange s'adresse. Il leur donne un signe que tous comprennent avec le cœur. Un nouveau-né emmailloté est couché dans une mangeoire. Qui a déjà vu un agneau naître comprendra ce que peut signifier ce signe pour un berger. Qui a déjà vu naître un agneau, ce petit être fragile, couché dans la paille et qui peine à se lever tout tremblant. Qui a déjà vu cela peut imaginer l'image de la fragilité et les devoirs qui incombent au berger quand il voit un si petit être. Jésus est mis dans la même situation que ce petit agneau. Prendre soin du peuple, le soigner, le nourrir, l'empêcher de s'égarer, voilà ce que le Messie doit apporter. La gloire du Seigneur se met à briller tout autour de ses bergers, comme si tous étaient appelés à porter le salut de Dieu qui naît dans une crèche. Les bergers sont effrayés, bien sûr. La gloire de Dieu, jusqu'ici, ne se contemplait pas sous peine d'en mourir. Avec la naissance de Jésus, la gloire de Dieu se fait lumière pour les hommes. Elle éclaire leur cœur et les rend tous porteurs de salut pour le monde. Là où le peuple attendait un nouveau David, un nouveau bien-aimé de Dieu, l'ange annonce dans un cœur angélique: gloire à Dieu dans les cieux très haut, et sur la terre, paix parmi les hommes, ses bien-aimés. Avec l'agneau de Dieu, c'est le peuple tout entier qui devient le troupeau de Dieu lui-même. Dans la fraternité avec l'humanité de Jésus, tout homme peut devenir le bien-aimé de Dieu. On ne sait plus si le Messie est attendu ou s'il est là parmi les bergers, si l'homme, dans sa foi en Dieu, ne devient pas lui-même Messie pour le monde. La paix n'est plus une paix inique que l'Empire impose. Ce n'est pas du côté de la royauté d'Hérode qu'il faut attendre le salut, ni du côté de la paix d'Octave, mais c'est dans la foi en un Dieu qui ne laisse aucun de ses agneaux, même ceux qu'on crucifie sous l'Empire romain, même ceux-là seront bénis par ce Dieu. Et justice sera demandée pour lui. À partir de ce chant angélique qui retentit dans le ciel, c'est le peuple de Dieu tout entier qui va chanter les louanges d'un Dieu qui sauve. Les bergers vont aller voir ce Messie tant attendu, ils vont raconter comment le salut leur a été annoncé et ils chanteront à leur tour les louanges de Dieu. La joie est pour tout le peuple, comme annoncé. Jusqu'aux extrémités de la terre, le ciel a retenti de cette musique de salut qui harmonise le temps et l'espace et qui dicte au cœur le rythme de l'existence. L'empereur Octave, dans sa recherche de paix, n'aurait pu rêver plus grande paix que celle qui baigne le cœur des bergers. Eux, les proscrits du temple, ne sont soumis à aucun recensement. Ils vivent dans les montagnes et peuvent très bien ne pas se présenter sans que personne ne s'inquiète. Qui serait venu les chercher dans les montagnes? À qui auraient-ils rendu des comptes? Échappant aux règles du temple, vivant à l'écart des villes, les bergers sont à la fois figure de chefs du peuple et marginaux, échappant aux codes habituels du pouvoir. Le ciel est leur temple et la nuit leur temporalité. Ils sont absolument libres et c'est peut-être ainsi qu'ils sont choisis pour être figure des chefs d'Israël. La nativité racontée par Luc nous invite à repenser la paix. Nous savons, pour le vivre nous-mêmes en ce moment, que trouver la paix juste n'est pas chose facile et qu'il faut toujours se méfier des paix apparentes. Ces moments paisibles où l'on pense que rien ne se passe et où pourtant la colère gronde en sourdine. Le salut que nous apporte le Christ est un salut grâce auquel le plus petit a du prix aux yeux de Dieu. Un salut où tout le monde finit par trouver sa place, quand bien même elle serait dans une mangeoire. En tout cas, aux yeux de Dieu, chacun a sa place sous son regard, dans sa paume, comme dit la Bible. Même né dans la paille, ce petit-là est celui dans lequel Dieu se fait une place, car nous pouvons nous aussi devenir place de Dieu, temple pour lui. Dieu installe son temple dans ce tout petit. La crèche de Marie et Joseph à Bethléem contraste avec l'énorme temple qu'Hérode fait construire à la même époque à Jérusalem. Dans quel temple s'installera Dieu ? Celui de pierre ou celui de chair? Dans celui qui sert l'orgueil des hommes ou dans celui où dort un petit enfant contemplé par les bergers? Luc nous invite à la paix du sabbat, cette paix où l'équité et l'amour de Dieu peuvent régner. Elle est dure à construire, cette paix-là. Une paix dans laquelle aucun n'est floué, dans laquelle chacun peut vivre librement, dans laquelle aucun travail servile n'est permis car le sabbat l'interdit. Ce sabbat, c'est celui des 8 jours qui suivent les grandes fêtes dans le judaïsme comme dans le christianisme, comme il est prescrit dans le livre du Lévitique au chapitre 23. Pendant 7 jours, vous offrirez des mets à Yahvé. Le 8e jour, il y aura pour vous une sainte assemblée. Ces jours de réunion, vous ne ferez aucune œuvre servile. 8 jours qu'on appelle dans le christianisme, ironie du sort pour ce temps de Noël, octave de Noël. Comme en musique, intervalle des notes, et comme l'empereur qui voulait faire la paix. L'octave de Noël est une respiration dans nos vies. un temps où nous pouvons prendre vraiment la mesure de notre vie et nous en remettre à Dieu, lui remettre nos existences pour qu'il en prenne soin comme un bon berger. Comme les bêtes blessées ou malades dont parle Ézéchiel dans son interpellation des bergers. Toute personne qui se sent abandonnée, sans soin, sans attention, sans place reconnue socialement, peut se tourner vers le berger qui n'abandonne jamais ses moutons. Avant d'inaugurer une nouvelle année, il est bon de rechercher quelle est la paix qui nous est promise en Jésus-Christ. Quelle est la paix juste pour notre vie, pour notre société? Est-ce la paix de l'opulence, où chacun cherche à avoir toujours plus? Est-ce la paix du partage, celle où tous les frères peuvent vivre dignement? Est-ce la paix qui ne veut rien savoir de ceux qui souffrent à côté de nous? Ou bien la paix de l'attention à porter à chacun, tout près, mais aussi au loin, ceux qu'on oublie, ceux qu'on ne voit pas, ceux qui ne font pas partie du même monde? Comment être dans cette paix-là, cette paix juste? Dieu nous confie sa parole pour pouvoir parler de cette paix, dialoguer, essayer de la construire ensemble, sans force ni rudesse, mais avec une louange pour ce que nous avons reçu grâce à Dieu, cette vie que nous avons à construire. Avec cet appel au berger, Luc nous institue tous bergers de nos sociétés, attentifs au sort de l'autre, conscients de la fragilité des hommes, que ce soit notre propre fragilité ou celle des autres autour de nous, comme ce petit qui naît à Bethléem, comme un agneau dont il faut prendre soin. Ce n'est pas du misérabilisme, ce n'est pas de la charité mal comprise, c'est simplement apprendre à vivre en société dans une douceur que le Seigneur nous montre à Noël. Quand ce jour de Noël, la gloire de Dieu illumine nos cœurs et que le soin que Dieu prend de chacun nous fasse entrer dans sa paix. Amen.